Chers frères et sœurs, voici l'épiphanie que nous sommes en train de vivre. L'épiphanie, pour beaucoup d'entre nous, c'est des jolies histoires, c'est une jolie histoire. Des rois mages qui viennent d'Orient, qui passent à la cour d'Hérode, qui vont jusqu'à Bethléem, l'encens, la myrrhe, tout ça, et qui repartent par un autre chemin. Et pour certains d'entre nous, une espèce de chanson qui traîne dans nos têtes. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'arrive à cette fête, j'ai cette chanson un peu idiote. Vous savez, ça commence par « Les rois mages en Galilée ». Mais toute notre culture est là aussi. Hein, toute notre culture, plus profondément, les peintres depuis le début de la peinture n'ont pas cessé de peindre et de façon absolument somptueuse, cette scène incroyable où on voit les mages se prosterner devant le Christ. Hein. Je ne veux pas vous faire un cours d'histoire de l'art maintenant, ça ne sert à rien, mais allez en rentrant feuilleter les pages. Vous pouvez aller très très loin, hein. Vous pouvez commencer par le 14e siècle en Italie, et puis vous pouvez revenir jusqu'à très récemment. Il y a vraiment de très 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 belles choses. Sauf que le Seigneur aujourd'hui ne veut pas simplement nous raconter une histoire. Il veut nous dire quelque chose de beaucoup plus profond à travers cette histoire. Mais pour ça, il faut décoder l'histoire. Parce que y a plusieurs genres, vous savez, dans l'écriture. Et ce genre-là, le genre littéraire qui est là, c'est un genre qui est à la fois un genre journalistique et un genre allégorique. C'est deux genres qui se mélangent. Ce n'est pas complètement allégorique, il y a une vérité concrète, il y a des choses qui ont existé. Ce n'est pas complètement allégorique, c'est aussi historique. C'est aussi journalistique, si vous voulez. Alors décodons, commençons par décoder pour comprendre le sens profond des choses. D'abord, on a des mages. Alors vous avez entendu, des mages. Pas des rois mages. D'où vient le texte? Vous pouvez le relire dans tous les sens, hein, le texte. C'est des mages, et pas des rois mages. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de deux textes, Isaïe 60 et le psaume 72, où il est question de rois. Alors pourquoi est-ce que Isaïe parle de rois, le psaume parle de rois aussi, et l'écriture ne parle pas de rois? Parce que là encore, c'est un code. C'est pour montrer qu'il va s'agir de personnes très importantes qui auront une autorité. Et effectivement, les mages ont une autorité. Qui sont-ils exactement? On le sait très bien. Alors, on ne le sait pas par leur nom, ça c'est la légende, mais on sait que ce sont des mages, c'est-à-dire en fait des professeurs de sciences, pour parler de notre langage, qui passaient de cour royale en cour royale depuis l'Orient et qui gagnaient leur vie comme ça. Et ces trois-là, eh ben, sont comme les autres professeurs. Alors, ils ne se baladaient pas tout seuls, ils se baladaient à plusieurs. Vous voyez, c'est comme une petite école qui se baladait de cour royale en cour royale. Mais si on garde ça dans la tête, il manque quelque chose. Il manque quelque chose de plus profond. Il manque quelque chose, un signe. Et il manque l'étoile. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'étoile? Est-ce qu'il y a vraiment eu une étoile? On peut très bien le penser. Il y a probablement eu une étoile. En tous les cas, symboliquement, là on passe dans l'allégorie, vous voyez, symboliquement, ce sont des gens qui, avec leur intelligence, remarquent un signe que tout le monde peut voir. Ils remarquent un signe que tout le monde peut voir. Et à partir de ce signe-là, ils vont suivre ce signe et ils vont partir en voyage, se déplacer. Alors, on peut imaginer un voyage physique, effectivement. Ils vont partir en Orient, ils vont arriver à Hérode, et puis ensuite à la crèche, et tout ça a un sens. Mais on peut imaginer aussi un voyage philosophique, un voyage psychologique, un voyage religieux, profondément religieux. Mais quelque chose qui me pousse, une sorte de désir profond que j'ai dans le cœur, et que, chers frères et sœurs, nous avons tous dans le cœur, qui est un désir d'aimer et d'être aimé à l'infini. On a tous le désir de l'infini, tous. C'est ce qui caractérise notre humanité. C'est une des choses qui caractérise notre humanité. C'est que nous avons un désir profond. Et que nous sommes vraiment nous-mêmes, que si le sens de notre existence, eh bien, il est ajusté à ce désir profond. Alors les mages cherchent, parce que ce sont des êtres humains raisonnables, ils voient un signe et ils partent. Et c'est comme ça que l'aventure humaine commence. Et c'est pour ça qu'il est tellement respectable que ces philosophes, que ces mathématiciens, ces physiciens, ces astronomes, tous ces scientifiques, ces médecins, ces chercheurs, ils sont tellement importants pour notre civilisation, tellement importants pour notre humanité, vous voyez. La foi n'est pas séparée de la réflexion intellectuelle. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais. Si vous voyez quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas compréhensible, qui n'est pas... Mais il y a quelque chose qui ne cloche pas. Qui cloche, je veux dire. Il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Le Dieu ne nous a pas donné une intelligence pour qu'on la mette de côté quand on arrive à l'église. Ça, c'est clair. C'est vraiment très important. Et c'est pourquoi je vous annonce un scoop. Nous allons bientôt avoir une philosophe qui est l'une d'entre vous, paroissienne d'ici, qui va faire une conférence sur la foi et la raison. Là, on en a parlé tout à l'heure, mes sœurs, si vous n'êtes pas au courant, c'est parce que j'en ai parlé avec Claire tout à l'heure. Voilà, alors ils suivent un signe, et vous avez remarqué, ils arrivent à la cour d'Hérode, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le signe disparaît à la cour d'Hérode. Alors on pourrait se dire, ouais, mais c'est parce qu'il y a des méchants, alors le signe disparaît parce qu'il y a des méchants. Non, le signe disparaît parce qu'il est plus nécessaire, parce qu'il y a des prêtres qui vont venir citer devant les mages qu'effectivement, les prophètes ont annoncé qu'un roi naîtrait à Bethléem, en Judée. Donc comme il y a l'étoile, il n'y a plus besoin, comme il y a la parole de Dieu, pardon, il n'y a plus besoin d'étoile. Et ça nous donne une indication précieuse. Est-ce que l'étoile actuelle, notre étoile, ce qui pourrait nous guider et nous amener à Jésus, bien que peut-être c'est lui qui vient vers nous, enfin ça c'est autre chose, est-ce que ce n'est pas justement l'Écriture? Est-ce que ce n'est pas en lisant l'Écriture que petit à petit, on va savoir où est Jésus dans notre vie? Vous voyez, aujourd'hui, peut-être que, je ne sais pas, vous allez rentrer chez vous, il va y avoir le dimanche après-midi, le dimanche soir, avant de reprendre, et peut-être que vous vous posez la question, mais où est Jésus dans ma vie? Et l'Écriture vous l'enseigne. L'Écriture va vous l'enseigner. Il est au milieu de toi. Citation de l'Écriture. Il est en toi. Il ne te quitte jamais. Et il te guide. Regardez comment est-ce que Dieu a guidé les mages, comme Dieu a guidé Joseph, comme Dieu guide tous ceux qui sont à sa suite, qui marchent à sa suite. Dieu guide à travers le songe, les songes, les mages vont pouvoir repartir par un autre côté, vous voyez ? Hérode, qui est Hérode ? Qu'est-ce qu'il représente ? Vous voyez, un tyran, un affreux bonhomme qui fait des crimes. Et ce qu'il représente surtout, c'est l'idole. Tous ceux vers qui on se prosterne, mais qui fait finalement n'ont pas à recevoir notre prosternation. Vous avez remarqué que les mages, ils vont se prosterner à la fin vers Jésus et ils vont offrir leur cadeau à Jésus, mais pas à Hérode. Ce que je veux dire, c'est que l'adoration des mages, elle va être ajustée. Et vous voyez, c'est le centre, à mon avis, c'est la pointe de cette écriture, de cette page d'écriture, c'est que le Seigneur nous invite à aller nous prosterner, à aller louer, à aller nous adresser à Dieu, mais de façon juste, en écartant nos idoles, en écartant tous ceux vers quoi nous pourrions consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent, et des choses qui finalement On le sait très bien, on ne nous rend pas heureux, fondamentalement. Il y a des gens qu'on idolâtre et ça ne nous rend pas heureux. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, quitte la cour d'Hérode. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce message est très pratique aujourd'hui. Quitte la cour d'Hérode et va à Bethléem. Va te prosterner devant l'enfant Jésus. Vous avez vu que les mages sont guidés par l'étoile, ils sont guidés par l'écriture, ils arrivent jusqu'à la crèche, et avant de contempler cette scène incroyable, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, savoir est-ce que ce n'est pas Jésus qui finalement nous attire? Est-ce que ce n'est pas Jésus qui a attiré les mages? Est-ce que cette étoile, elle n'est pas envoyée par le Seigneur? Est-ce que constamment, il n'y a pas des signes que le Seigneur nous donne pour affermir notre foi? Aujourd'hui, par exemple, il va y avoir un signe que le Seigneur va nous donner à tous, qui sera visible par tous au moment de la communion. Margot va faire sa première communion. Alors c'est pareil, hein, ça peut être mignon, ça peut être très gentil. Voilà, une jeune fille va faire sa première communion, c'est gentil. On peut le voir comme ça. Mais on peut le voir aussi comme un signe que le Seigneur, la Trinité Sainte, nous envoie et nous donne et nous dit « Regarde, cette jeune femme va recevoir mon fils. Je t'appelle à le recevoir aussi, toi qui le reçois depuis 40 ans. Pourquoi aujourd'hui tu ne le recevrais pas pour la première fois? Pourquoi aujourd'hui tu ne le recevrais pas comme la première fois? Vous voyez, typiquement, ça c'est un signe. Et des signes, des étoiles comme ça, le Seigneur nous en donne plein. Alors les mages se prosternent. Et ça, c'est un miracle, parce que des grands savants qui vont se prosterner devant un enfant de 50 cm, qui hurle, qui crie, qui babille comme celui du fond, là, bah, raisonnablement... On peut se poser des questions, sauf qu'ils ont accès à une vérité, parce qu'ils ont fait tout ce trajet jusqu'à Jésus, ils ont accès à une vérité, et le bon Dieu nous dit, tu peux avoir aussi accès à cette vérité. Toi aussi, comme eux, tu peux dépasser les apparences, ce qui est invisible, et tu peux t'unir à Jésus, même si tu ne le comprends pas, même si tu ne le vois pas, et même s'il t'apparaît sous une forme auquel apparemment il est difficile d'avoir accès. Une grotte, un papa, une maman, un petit enfant. Alors les mages, ils cèdent. Les mages se soumettent. Les mages se prosternent. Et c'est une scène magnifique où ils s'inclinent. C'est-à-dire qu'ils disparaissent. Quand on s'incline, on disparaît. On ne voit plus vraiment la personne devant qui on s'incline quand on s'incline. On reconnaît que dans l'obscurité, on accepte que la personne qui est devant soi est plus importante que soi. On s'incline. C'est ce qu'ils font et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire aujourd'hui. Incline-toi. Qui que tu sois, incline-toi devant Jésus. Et tu peux lui faire les mêmes présents. L'or. L'or, c'est quoi? L'or, c'est la royauté. C'est-à-dire que vous pouvez tous, en vous inclinant devant Jésus, lui dire « Tu es mon roi. « Règne sur moi. » Vous pouvez lui offrir l'encens. L'encens, c'est ce qui désigne Dieu. Beaucoup d'entre vous utilisent de l'encens. Ici, on aime bien utiliser de l'encens. L'encens désigne Dieu. Vous voyez, l'encens montre Dieu. Et vous pouvez aussi offrir votre prière à Jésus. Jésus, je te confie ma vie, je te confie ce que j'aime, etc. Et puis la myrrhe. Alors la myrrhe, vous savez, c'est un parfum qu'on utilisait pour embaumer les morts, parce que les morts sentaient très mauvais. Ça sent toujours très mauvais d'ailleurs. Mais la myrrhe, c'est le symbole d'un parfum qui annonce le sacrifice. Et de la même façon, on peut s'incliner devant Jésus en lui disant « Je te donne ma vie, je t'offre ma vie, je me remets entre tes mains. » Chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui, dans notre cœur, il y ait ce désir de Dieu, ce désir de rencontrer Jésus. Nous sommes comme des mages, nous sommes des chercheurs de Dieu, nous sommes des adorateurs de Dieu. Devenons, quand nous sortirons de cette église, des témoins du Seigneur. Lui qui arrache de notre cœur le péché et la mort. Amen.